nous sommes en train de parler de sortie de violence, ce qui est d'une très grande pertinence, hein, c'est le moment de le dire, parce que si vous regardez beaucoup ces derniers temps, beaucoup de travaux portés sur les facteurs de violence, comment les gens basculent dans la violence, etc. Et la question de la sortie de la violence, je pense que c'est très très important de traiter cette question-là et d'anticiper. Aujourd'hui, quand on va à la région, la thématique majeure, c'est soit la prévention de l'extrémisme, la lutte contre l'extrême violence, la lutte contre le terrorisme. Mais il n'y a pas encore de piste véritablement claire sur... Mais après avoir arrêté tous ces terroristes, etc., qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va se gérer la réconciliation avec les communautés d'origine? Comment les communautés d'origine vont accueillir les mesures de réintégration et de réinsertion? Des problèmes commencent déjà à se poser dans le bassin de la Tchad après la réduction des premiers jeunes de Boko Haram, où les populations locales ne pouvaient pas comprendre comment des gens qui ont été dans la violence peuvent être après acceptés dans leur société. Comment se passe cette réinsertion? La question du désarmement et de la réinsertion, les DDR, mais aussi tous ces processus individuels ou collectifs qui pourront aider ces jeunes ou ces anciens combattants à sortir d'un conflit et entamer une vie en collectivité, parce qu'il s'agit de cela, reconstruire la communauté, reconstruire la vie en société et sa cohésion. Donc, problématique éminemment importante, qui, certainement, au regard des interventions que nous aurons, il y aura plusieurs entrées sur la justice en tant que telle, quel est le rôle de la justice? Est-ce qu'on va complètement judiciariser ces rapports-là? Ou bien la réconciliation se fera après la justice? Quelle est la priorité? Est-ce que la justice, c'est la réconciliation? Dans quelle mesure peut-on parler d'amnistie? Et en même temps, le droit aussi des victimes. Parce que quand on parle de ceux qui sortent de la violence, c'est vrai, leur intégration, cela est important pour la pacification des rapports sociaux, mais qu'en est-il des victimes de cette violence-là? Et comment tous ces rapports-là vont se gérer? C'est le véritable enjeu aujourd'hui de notre panel. Pour lequel tout de suite, je m'en vais donner la parole. Je pense que notre collègue Rehani n'est pas encore là. Donc, Rachid Idyassine, qui est sociologue, chercheur au LASPAD, Laboratoire Afrique, Société, Pouvoir et Diaspora, qui est basé à l'Université Gaston-Berger. Rachid Idyassine est maître de conférence au Centre d'études des religions. Donc, nous sommes collègues dans la même institution. Il a beaucoup travaillé sur les questions, son dernier ouvrage sur l'identité, mais aussi sur les expressions francophones de l'islam et par rapport les expressions religieuses par rapport à la mondialisation et aux enjeux de la globalisation. Beaucoup de travaux et dans ce domaine-là. Donc Rachid, tu as la parole pour 5 minutes. Merci.
Merci Bakary. Alors je commencerai évidemment par remercier les organisateurs et plus particulièrement la chaire Culture, Société, Faits Religieux, à travers Farid El Asri pour cette invitation. Et bien en même temps, je profite de quelques secondes pour féliciter aussi et saluer en tout cas l'accueil et l'organisation de toute l'équipe. Je profiterai également de prendre les quelques minutes de notre ami absent pour pouvoir tenir un propos relativement digeste, parce que j'ai l'habitude de parler assez vite. Et donc du coup, je profiterai donc de cette occasion qui m'est offerte pour vous parler dans ce panel de justice, réconciliation et amnistie, et j'ai intitulé mon intervention « Pour une sociologie de l'impardonnable ». Je voudrais ici nous inviter à investir la notion de pardon, puisque ce que j'ai compris un petit peu de l'initiative, de ce programme en l'occurrence, c'est aussi d'engager un certain nombre de travaux de recherche et de réflexion autour de ces questions de violence et de sortie de la violence en Afrique méditerranéenne et subsaharienne, et donc en l'occurrence d'ouvrir un certain nombre de pistes et de chantiers à travers des choses qui existent déjà, et notamment la notion de pardon va nous permettre, en tout cas nous offre une ressource sociale qui est disponible pour sortir de la violence dans une approche bottom-up, dans une démarche ascendante qui va des populations vers les décideurs des politiques publiques en général. Cette délicate notion de pardon peut aussi nous servir à critiquer l'alliance objective de certaines recherches scientifiques et de politiques sécuritaires qui se donnent comme louable mission de lutter contre les violences contemporaines. En effet, l'organisation de rencontres comme celle-ci porte en elle des rapports de domination aussi discrets qu'éminemment violents, entretenus à travers des agendas exogènes aux sociétés africaines de la Méditerranée et du Sahel. Mais le pardon nous permet également de mobiliser d'autres épistémologies où le religieux n'est pas mis à l'index. L'argumentaire de ce colloque et l'intitulé de ce panel me conduisent à proposer donc un chantier de recherche sociologique sur l'impardonnable dans les sociétés contemporaines d'Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Voilà là un impensé que l'actualité oblige de plus en plus à prendre en charge, comme le disait Bakary, à travers le retour de certains membres d'organisations terroristes, maladroitement appelés djihadistes, dans leur pays d'origine ou ayant localement déposé les armes, et le problème de leur réinsertion. Pourrait-on, voudrait-on ou devrait-on leur pardonner ? Ou préfère-t-on, au fond, nous en débarrasser ? Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. La conscience humaine, l'individu comme la société, expérimente toujours le pardon ou le non-pardon, avant, pendant et après tout acte de violence. Plus généralement, nous faisons tous l'expérience du pardon, ne serait-ce que face à l'idée de la violence. Le pardon est dépendant de la violence. Sans violence, pas de pardon. Et on pourrait même aller jusqu'à dire avec Jacques Derrida que le pardon, s'il y en a, ne doit et ne peut pardonner que l'impardonnable, l'inexpiable, et donc faire l'impossible. C'est aussi ce que disait, mais différemment, Vladimir Jankélévitch, le pardon ne connaît pas l'impossibilité. D'ailleurs, il faudrait dire que le pardon est une notion complexe, ni complètement philosophique, ni totalement religieuse, et qu'elle est aussi bien éthique que politique. Pour le sociologue que je suis, c'est un fait social à part entière, dans la mesure où il se conçoit comme une relation sociale, une relation spéciale, certes, et propre aux sociétés humaines, car le pardon ne lie pas l'animal ou le robot à un tiers. En effet, cette sociologie se chargerait de montrer qui pardonne et qui ne pardonne pas, de savoir à qui est-ce qu'on pardonne et à qui est-ce qu'on ne pardonne pas, d'expliquer ce que l'on pardonne et ce que l'on ne pardonne pas, autant de questions très simples qui ne sont pas uniquement théoriques, car elles se vivent au cœur et dans le corps aussi bien des individus que des sociétés. Le pardon est une double expérience, celle qui réunit à la fois la violence et la sortie de la violence. Pardonner est violent. Le pardon est une violence, un sacrifice. C'est, comme je le formule, le violent refus volontaire d'une violence légitime. Le renoncement à un droit à la justice. Pardonner, c'est chercher violemment à sortir de la violence en redirigeant la violence du bourreau non pas vers lui, mais vers la victime, en espérant rompre ainsi le cycle de la violence à travers le devoir de mémoire. D'ailleurs, le pardon n'est fondamentalement pas juste. Le pardon ne cherche pas la justice et se confronte même à l'idée de justice. La justice, elle, cherche à institutionnaliser la réparation de ce qui est réparable par l'instrument de la sanction. Tandis que le pardon se charge de l'irréparable, sur lequel la sanction n'a aucune incidence. C'est ainsi, par exemple, que des familles de victimes ne veulent absolument pas pardonner et refusent en toute cohérence de percevoir les indemnisations du préjudice et autres dommages et intérêts, tout en acceptant que justice soit bien rendue à travers le jugement judiciaire. Le pardon n'est pas non plus la réconciliation. Celle-ci s'inscrit, tout comme la justice ou l'amnistie, dans un registre normatif, tandis que le pardon ne peut jamais s'imposer. Et si on se réfère à nouveau à Vladimir Jankélévitch, le pardon n'est pas l'excuse, car il se donne sans justification, sans raison. Tandis que la réconciliation prend justement en charge la rationalité qui gouverne aux intérêts à sortir de la violence. Dans le cadre des théories des mécanismes de justice transitionnelle notamment, on distingue les logiques du pardon de celles de la réconciliation. La distinction convenue fait du premier un concept moral et religieux et du second un concept juridique et politique. Dès lors, la question que pose ici le pardon est de savoir si on doit privilégier le recours au pouvoir traditionnel et religieux pour sortir de la violence par le bas ou s'en tenir à l'insuffisance d'une approche politique par le haut qui s'appuie sur le pouvoir moderne et séculier. Si cette dernière option peut permettre de réconcilier, elle le fera sans jamais pardonner. Enfin, je terminerai par interroger l'amnistie, dont l'étymologie pourrait suffire à le différencier du pardon, car le pardon interdit l'oubli et entérine la mémoire. En ce sens, Frédéric Lorgnon précise que le devoir de mémoire est consubstantiel au pardon. Cette tension, pardon et mémoire, est ambivalente, car on pourrait penser que si l'on refuse de pardonner, ce serait justement pour ne pas oublier. Certes, mais on ne fait que préserver le souvenir en se privant de la mémoire. Ainsi, le pardon est situé entre un droit à l'oubli et un devoir de ne pas définitivement réduire l'être humain à son statut de victime ou de bourreau. Et qu'au-delà de la violence irréversible, imprescriptible, au-delà du crime diabolique, monstrueux, l'humanité persiste. De plus, à la différence de l'amnistie, le pardon requiert la demande. Le cas rwandais est un cas d'école mondialement reconnu. Claudine Vidal rappelle que le gouvernement post-conflit travaillait à mettre en place un système pénal pour juger et punir ceux qui avaient participé au génocide. Les prisons étaient surpeuplées de suspects, le plus souvent arrêtés sur simple dénonciation. C'était un moment envahi par la douleur et les ressentiments, sans rapport avec ce que l'État et l'Église catholique entreprirent alors, une politique volontariste du pardon. Cherchant à promulguer l'un et l'autre le modèle d'un pardon institutionnalisé, d'ordre religieux ou laïque, ces deux institutions, l'État et l'Église, s'interposaient entre les génocidaires et les victimes, incitant les premiers à demander pardon, un pardon que les seconds seraient censés leur accorder. Je termine pour conclure ici avec deux initiatives, et d'un point de vue même prospective et préventif, en fait, le pardon constitue une entrée pertinente. Avec la recherche que Reda Benkirane a présentée hier, par exemple, que l'on a menée avec Claude Mou et d'autres chercheurs, on avait posé la question de savoir si, pour atteindre la paix, les 700 personnes que l'on avait interrogées étaient favorables à l'amnistie des auteurs de crimes commis dans le cadre d'un conflit. Les avis étaient relativement partagés. On avait 43,4% d'opinions favorables à l'amnistie sur l'ensemble, mais avec de très fortes disparités selon les pays. Sur une étude trinationale également, on a posé dernièrement, le mois dernier, donc en mars, à 1480 personnes, la question au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau de savoir, dans le cadre du conflit en Casamance, si elles étaient favorables au recours à l'amnistie. Seulement 21% d'entre elles étaient prêtes à recourir à l'amnistie des combattants pour sortir de l'un des plus vieux conflits africains. Dès lors, il serait bienvenu de conduire une recherche sociologique sur le pardon comme instrument traditionnel de sortie de la violence en Afrique subsaharienne et méditerranéenne. Et les expériences politiques ou humaines plus ou moins inachevées ne manquent pas. Il suffit de penser aux Indiens d'Amérique, aux aborigènes d'Australie, à l'esclavagisme européen, arabo-berbère et négro-africain, aux crimes coloniaux dans les pays européens, à l'Allemagne nazie, aux bombes nucléaires américaines au Japon, au génocide en Bosnie, etc. Et en ce qui concerne les sorties récentes des conflits politiques ou interethniques en Afrique, les exemples comme ceux des commissions Vérité et Réconciliation après l'apartheid en Afrique du Sud,
merci,
ou au Burundi également, sont des exemples qui nous permettent donc d'investir le pardon. Autrement dit, ici, dernière phrase pour conclure, toutes ces riches et intenses expériences humaines de la violence nous rappellent que le pardon est un préalable à toute éventuelle justice, réconciliation ou amnistie susceptible de permettre une sortie durable des violences actuelles en Afrique subsaharienne et méditerranéenne. Je vous remercie.
Merci Rachid. Le débat en est bien lancé à partir du concept de pardon. Maintenant, certainement, ça va se poser sur quel sera le statut juridique de ce pardon-là. Est-ce qu'on est dans une société fortement judiciarisée? Est-ce qu'on va judiciariser toutes ces questions-là? Ou bien d'autres ressources et d'autres ressorts existent? Sur ce, je donne directement la parole à Niagale, qui a fait beaucoup de travaux sur ces questions-là, aussi bien auprès du G5 Sahel, mais aussi de l'Union africaine. Je me rappelle de la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un entretien avec le président Buyoya, avec la mission de l'Union africaine pour le Sahel, mais aussi à travers tout ce réseau de la francophonie dans lequel elle est l'une des expertes les plus attendues toujours dans ces grandes réunions-là, au regard de la pertinence de ses travaux, mais aussi de son goût du terrain et de la manière d'interroger certaines problématiques parfois qui nous semblent évidentes, qu'elle traite toujours au croisement des disciplines entre la science politique, le droit, mais aussi l'anthropologie qui lui tient beaucoup à cœur. Niagale, tu as la parole.
Merci. Merci beaucoup. Je suis très flattée et je suis bien sûr de mériter tous ces compliments. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur le G5 Sahel, j'ai beaucoup travaillé au Mali, sur la réforme du système de sécurité, etc. Mais aujourd'hui, étant donné la problématique dont on m'a demandé de parler, je vais parler du cas de la République centrafricaine, qui me paraît intéressant pour ce qui concerne cette question de la justice et de l'amnistie. Donc, pour le cas de la République centrafricaine, alors il faut pas hésiter à me couper, hein, parce que moi je suis très bavarde. Mais à mon avis, l'accent sur l'importance des faits historiques et de ce qu'on nomme en sciences politiques les past dependencies, dépendance au sentier, mal traduit en français à mon avis, pour expliquer le cycle récurrent de la violence qui a pour caractéristique sur le long terme la prédominance d'une impunité institutionnalisée. Donc, le cas de la RCA impose, à mon avis, et là je vais parler de la restitution d'une étude que j'ai réalisée dans le cadre d'un programme de recherche auquel je vous invite à vous référer, qui a été commandé par le Center on Study of Violence and Reconciliation, qui est un centre sud-africain qui a mené une étude dans 12 pays sur les processus de justice transitionnelle, 12 pays africains. Et les résultats sont très intéressants, tout est en ligne. Donc on a été invité en fait à réfléchir donc, selon une perspective historique. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour analyser ce phénomène de violence ? Pour le cas de la RCA, quand on remonte à l'époque précoloniale, on s'aperçoit que très tôt, la violence entre communautés, la très très forte violence entre communautés est la norme, avec notamment des systèmes d'esclavagisme qui se sont mis en place, qui ont impliqué à la fois les populations des rives de l'Oubangui, mais aussi les populations du Nord islamisées qui travaillaient sur un commerce esclavagiste avec le Sahara et le Nil. Ce qui est important de dire, c'est que la période précoloniale était caractérisée par de très faibles structures étatiques formelles, hein, et qu'on pourrait davantage parler de sorte de polities éparpillées plutôt que de réels centres de pouvoir sur un modèle étatique. Ensuite, le pays est passé sous protectorat français dans le cadre de l'Oubangui-Chari, qui est devenue une colonie en 1903. Et on a encore, c'est important de le dire, y compris sous contrôle colonial, eu affaire à un espace très faiblement contrôlé. Le contrôle territorial était très faible, y compris sous la colonisation. Et on a eu une exploitation des ressources économiques, notamment du caoutchouc, qui a été largement confiée à des compagnies privées. C'est à cette époque aussi qu'ont été introduites un certain nombre de différenciations religieuses. Ce qu'il faut dire, c'est que la période coloniale dans la province de l'Oubangui-Chari a été d'une extrême violence. Je vous donnerai deux exemples de violences intolérables et difficiles à supporter, même quand on en lit les témoignages. Un exemple, 58 femmes et enfants avaient été enfermés dans une espèce de case où il y avait simplement 3 petits trous d'air pour respirer. Et 48 d'entre eux sont morts et ils ont récupéré simplement ceux qui sont partis. Autre exemple, le 14 juillet 1905, deux officiers coloniaux ont profité pour l'occasion du 14 juillet au dynamitage d'un homme pour lancer le feu d'artifice. Donc on a eu affaire à des violences particulièrement graves, hein, en République centrafricaine sur la période coloniale. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu ailleurs, mais enfin, ça fait partie des exemples particulièrement violents. À partir de la période de l'indépendance, la RCA, donc l'indépendance en 1960, qui se solde par la mort suspecte du leader incontesté qui était Barthélémy Boganda, la RCA est entrée dans un cycle de violence dont l'enjeu est le contrôle d'un État central qui, jusqu'à aujourd'hui, ne parvient toujours pas à contrôler l'ensemble du territoire. Et s'est mis en place alors un système de justice calqué sur celui de l'ancienne puissance coloniale, la France, parce qu'il faut savoir que sous la période coloniale, ce n'était pas le système de justice français qui prévalait. Il y avait à la fois le système de l'indigénat, qui pour résumer faisait qu'on pouvait condamner sans éléments de preuve, et d'autre part un système de justice appuyé sur les chefferies traditionnelles. Donc après l'indépendance, on a essayé d'instaurer un modèle juridique calqué sur celui de la France, modèle qui n'a jamais fonctionné. Ce sont globalement les populations. L'histoire politique a été particulièrement violente. Alors, je vais utiliser le mot, c'est le nom de la table ronde, mais quand même, en quelques chiffres, entre 1960 et nos jours, on a eu 36 ans de régime militaire, 5 républiques, un empire et 6 transitions. Quelles ont été les caractéristiques des différents régimes justement qui se sont succédés, qu'ils se soient sous la forme dite républicaine ou impériale ou transitionnelle? D'abord, on a commencé par voir la prédation et la criminalisation de l'État qui s'est introduite dès David Daco, qui est le successeur de Barthélemy Boganda, qu'on soupçonne d'être impliqué, tout comme la France, dans l'assassinat de celui-ci. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Qui a atteint donc cette discrimination à un degré exponentiel sous Jean Bédel Bokassa, qui s'est fait sacré empereur avant d'être démis par les Français. On a ensuite assisté à une ethnicisation de l'État, particulièrement des forces armées centrafricaines, les FACA, sous la présidence d'André Kolimba, qui a promu les Yakoma de son ethnie à tous les postes de responsabilité, ce qui fait que l'armée est devenue composée à 70% de membres de son ethnie. C'est un processus qui s'est poursuivi sous Ange-Félix Patassé. Il faut savoir qu'Ange-Félix Patassé a été élu de manière complètement légitime et légale. Le processus d'ethnicisation s'est aggravé à travers l'introduction de la privatisation de la sécurité, de la milicianisation. À savoir que c'est une garde présidentielle ainsi que des groupes armés privés qui ont commencé à défendre le régime puisqu'ils ne pouvaient pas se fier aux armées, aux forces armées mises sur pied par son prédécesseur. Le président Patassé a lui été renversé par le président Bozizé, donc à la faveur d'une rébellion. Bozizé a été légitimement élu, là encore, mais a poursuivi l'instrumentalisation des forces armées de sécurité, notamment à travers le bataillon de sécurité présidentielle qui s'appelait le BPSI, qui s'est rendu coupable d'un nombre très très important d'exactions. Enfin, Bozizé a été renversé plus récemment par la coalition musulmane dite de la Séléka et a été contraint à la démission en 2013. Et depuis 2016, c'est le président Faustin Archange qui gouverne le pays. Ce qui est important de dire, c'est que malgré cette élection de Faustin Archange Touadéra, les violences n'ont jamais été aussi importantes dans le pays. Hein, on a aujourd'hui seulement 10% du territoire qui est contrôlé par l'État et 5 catégories de groupes armés. Je ne vais pas rentrer dans les différentes catégories, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en RCA, on a affaire à ce que les spécialistes du pays appellent le carrousel de Bangui, c'est-à-dire une élite politico-militaire qui transcende l'État lui-même. Les chefs rebelles, aujourd'hui, la plupart d'entre eux, il y a entre 14 et 18 groupes hein, qui parfois font alliance, etc., ont plus ou moins tous, à un moment donné, exercé le pouvoir. C'est extrêmement important de le prendre en considération. Juste deux points absolument majeurs pour conclure. D'abord, les violences auxquelles on a assisté ont été perpétrées contre les civils. C'est la caractéristique fondamentale de l'histoire politique de la RCA. Donc ces violences, ce sont des exécutions sommaires, des viols, des massacres de masse, des destructions de biens. Hein. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est cette question de l'amnistie. C'est-à-dire que la quasi-totalité des acteurs impliqués dans ces exactions, qu'ils aient été étatiques ou non étatiques, ont tous bénéficié de mesures d'amnistie par différents biais, soit dans le cadre des accords de paix, soit dans le cadre de la loi d'amnistie de 2008, soit dans le cadre des processus de DDR, puisqu'on a réintégré d'anciens combattants, soit dans le cadre des décisions prises à l'issue des dialogues politiques inclusifs. En revanche, la mise en place des commissions vérité-réconciliation décidées à l'issue de ces dialogues n'a jamais été rendue effective. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale mène des enquêtes. Bon, son principal fait d'armes, bon, qui malheureusement a été contredit, ça a été l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, mais a été aussi créée une Cour spéciale pénale ainsi qu'une commission des droits de l'homme. Ce sont des institutions qui ont seulement 2 ans. Donc il va falloir voir si on va pouvoir attendre quelque chose de ces nouvelles instances. Et pour conclure, et pour faire le lien et peut-être introduire un débat avec ton intervention. Ce que disent aussi les centrafricains, c'est que l'une des raisons, selon eux, pour lesquelles ils n'ont jamais eu droit à la justice, pour lesquelles il n'y a jamais eu de mesures tournées vers les victimes, c'est justement à cause de cette culture du pardon. Voilà.
Merci Niagale. Pour cet éclairage sur l'expérience centrafricaine qui certainement rejoint, on y reviendra au cours du débat, la question entre la justice, rendre juste véritablement, et la réconciliation et la prise en compte de cette problématique, comment les populations elles-mêmes voient ça et comment les victimes aussi jugent cette histoire de pardon, de justice pour la terminologie que tu as utilisée. Je pense qu'on y reviendra, mais il y aura un éclairage supplémentaire, notamment sur une expérience sur laquelle j'aimerais que Al-Mustapha puisse revenir à la fin peut-être, ou au début, l'expérience marocaine de la Moussalaha. Donc je vais vous présenter un peu Mustapha Rezrazi. Il est beaucoup plus lu en japonais et en anglais, parce qu'il a beaucoup publié en japonais, avec son passé de journaliste à l'Alam. Il est professeur visiteur à Princeton, dans la psychologie clinique. Il a pas mal de travaux, notamment sur ce concept assez complexe de counseling psychologique. Et moi, je l'ai connu à travers son travail passionnant sur les représentations des frontières, en étudiant le phénomène des frontières physiques et des frontières mentales. Il est professeur des universités en relations internationales et études stratégiques. Il a été, il est toujours, mais parce qu'il va beaucoup au Japon, à l'université de Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo. Secrétaire général de la Commission civique pour l'Afrique, membre du bureau exécutif de la Japan Global Network, secrétaire général du Centre japonais d'études marocaines, président de l'Association marocaine des études asiatiques ainsi que du comité chargé de la création de l'Association arabe des études asiatiques, actuellement vice-président de la Société marocaine des psychologues cliniciens, d'où son travail auprès des anciens engagés pour lesquels il fait un travail assez intéressant sur leur réintégration, parce que la réintégration, etc., n'est pas seulement limité à la question judiciaire, à la question de la réconciliation, mais aussi aux questions psychiques, psychologiques, et surtout sur les techniques, en tout cas les modalités de basculement dans la violence. Il est chargé de la région du Maghreb et du Moyen-Orient dans l'organisation Peace Boat. Son action, notamment au cœur des initiatives récemment prises par le Maroc sur la fondation sur la fondation que vous connaissez, sur la formation des imams, la réintégration des anciens engagés, mais aussi la prévention de l'extrémisme, mais aussi surtout sur la prévention du basculement à l'extrémisme. Donc si il est prêt, je lui laisserai la parole.
Bon, tu m'as beaucoup flatté, hein. Je suis un professeur tout court, franchement. Bon, c'est vrai, tant qu'on a la santé, on est actif. Maintenant, je suis moins actif avec un sciatique. Alors, bon, je voudrais justement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention sur le pardon parce que c'est un axe important dans le projet marocain Moussalaha Réconciliation qui est adressé à travailler avec les détenus dans les dossiers d'extrémisme violent et de terrorisme, et qui se base justement sur un principe de mettre ces gens se réconcilier avec eux-mêmes, avec le texte religieux et avec la société. Et justement, la notion de pardon, mais avec une version un peu anglo-saxonne, basée sur Melanie Klein, The Psychology of Guilt and Psychology of Forgiveness. C'est très important, mais un peu différente dans la construction théorique de la littérature psychanalytique française, tout simplement parce que le travail sur laquelle cette expérience de Moussa Laha s'est basée, c'est ne pas accentuer le sentiment de culpabilité chez les gens, parce qu'il renvoie les gens à une résilience contre justement la réconciliation. Et on a vu beaucoup d'expériences en Europe, malheureusement, vu qu'ils ont lancé beaucoup de projets sous une panique politico-médiatique, ils ont été plus dans la satisfaction de la masse que dans un travail thérapeutique tout court. Bon, je vais vous laisser tout d'abord voir une petite vidéo de 13 minutes de la première édition qui est mal filmée malheureusement, qui n'est pas filmée avec les critères professionnels, mais pour quand même vous ramener à vivre un moment pour un peu avoir une idée sur comment le processus a été fait dans les centres de détention marocains. Merci. Voilà, alors ce programme, il a été monté sur 5 axes. Un, c'est toute une série de formations religieuses, notamment sur les axes qui mènent ces gens à se radicaliser. Can I speak in English? Oh, parce que ça, bon, je ne suis pas habitué à, bon, ça va sans problème. Le deuxième axe, c'est un axe sur les droits de l'homme, d'ailleurs qui a occupé plus que 40 heures. Le troisième axe, c'est un axe sur les lois. Et justement, c'était très important d'instruire ces détenus sur toutes les lois relatives au terrorisme, les conventions internationales, parce que une des questions que pour eux leur échappe, c'est comment leur propre pays il leur mène à des pénalités assez lourdes, même si l'acte est fait en dehors du territoire marocain. Alors tu dois leur expliquer que tous les pays sont engagés par des conventions, par des exigences, que ce soit vis-à-vis des Nations Unies ou la communauté internationale en général, et que la loi pénale marocaine ne peut pas être gérée de manière souveraine sans prendre en considération les engagements du pays. Et c'était très intéressant. Moi, j'étais bon, en suivi presque quotidien le processus. C'était important que les gens, au début, ils étaient dans la logique de victimisation, mais après, ils ont commencé à reconnaître quand même qu'ils étaient impliqués, parce que, par exemple, prenons l'exemple du mémorandum Hague-Marrakech, qui élargit les actes relatifs au terrorisme. Ce n'est pas seulement l'engagement à la violence directe, mais l'advocacy, le financement, tous ces axes. Ils ne savaient pas parfois que ça entre dans l'acte terroriste en général. Alors l'évolution des lois, malheureusement, il y avait un manque de médiatisation, non seulement au Maroc, mais presque dans tous les pays. Alors, quatrième axe, c'était un axe de formation socio-professionnelle, pour aider ces gens à pouvoir travailler s'ils quittent l'espace carcéral. Et c'était très intéressant de renforcer leurs skills professionnels que ce soit universitaire pour ceux qui ont eu des diplômes, de licences, de master, même de doctorat, ou pour ceux qui ont été engagés dans des formations tout court professionnelles. Puis il y avait un accompagnement psychologique qui a inclus trois modalités, le débriefing, les groupes de parole et des entretiens individuels psychologiques. Concernant le volet relatif aux victimes, il y avait la présentation de 5 vidéos de différents pays qui présentent justement les lourds dégâts qu'ils ont faits pour des familles, pour des individus, pour des sociétés. Et c'était très, très fragile. On pourrait voir ça plus tard. Mais là, il y avait une intervention des psychologues pour pouvoir réduire le glissement vers le sentiment de culpabilité pour ne pas tomber dans l'accentuation de sentiment de culpabilité et rendre le débat un peu positif pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir une représentation, rationaliser un peu la scène et aller au-delà du sentiment de guilt. À part ça, il y avait aussi un cycle qui s'appelle Monadarat, débat. Et le cycle de débat, c'était focalisé à former ces gens à monter des discours radicaux. Le discours le plus radical qui existe dans le monde sur le takfir, sur Nusrat al-Mustadafin, sur d'autres thématiques. Et puis, les aider à les déconstruire. Alors, c'était très important parce que on a jugé que une grande partie qui ont été recrutés avec half knowledge. Ils ne connaissent pas le texte, ils connaissent la moitié du texte. Alors, c'était intéressant pour pouvoir aider ces gens après leur pénalité, d'être un peu plus résilient et peut-être même positif à travailler dans le champ de la prévention. Et c'était très étonnant que ces gens-là, il y avait toute une équipe qui a travaillé avec eux. Au début, on leur dit, voilà, montez un discours qui peut me recruter moi-même. Alors, ils font l'effort, non, ça ne marche pas. Après, ils travaillent. Puis, ils montent un discours que tu ne le trouves même pas dans dans la littérature ni d'Al-Qaïda ou de Daesh. Je lui dis, ok, maintenant, on va travailler à déconstruire ce discours-là, tout en prenant en considération la logique du texte, les arguments, la performance médiatique de déconstruction. Et ça a pris beaucoup de travail. Et après, il y avait un comité devant lequel ces gens ils ont présenté les résultats de cet exercice qui a duré 292 heures. Et après, il y avait des témoignages. Et après, ceux qui ont quitté la prison, ceux qui ont terminé leur pénalité, il y avait un suivi aussi par la Fondation Mohamed VI du post-carcéral. Et il y avait un suivi aussi par le psychologue impliqué. Et il y avait aussi ils étaient invités à participer dans d'autres activités culturelles. Parmi eux, il y avait deux ou trois, par exemple pour cette édition, qui ont publié 4 articles, dont un qui était très intéressant, j'aimerais bien le traduire un jour, c'est sur le visa et le contrat de l'Aman. Alors, elle a monté toute une logique de la jurisprudence islamique sur le statut du visa. Comme le visa, c'est un engagement entre l'individu et le pays d'accueil. Et c'était très intéressant, un très bon exercice. D'ailleurs, ça se trouve dans le journal d'Afat al-Saji, les cahiers de prisonniers, un journal dédié aux publications des prisonniers, dont Farid Lassri, les membres du comité scientifique. Et voilà, malheureusement, il n'y a pas du son. Alors, mais s'il y a des questions. Alors, à part ça, il y a un travail qui se fait dans le volet de l'évaluation des modalités de déradicalisation qui inclut un package de 12 modalités d'évaluation psychologique, sociologique, oui. Avec des formules mathématiques qu'on aurait la chance peut-être
de compter. Vous voyez que j'ai la montre, mais les Marocains ont pris le temps. <c'est> Merci de cette présentation. Et je pense que ce sera, dans le cadre du débat, ce sera l'occasion d'y revenir. Voilà, vous voyez les rapports de force entre celui qui a la montre et celui qui a le temps. Donc, je pense que c'était une expérience intéressante à voir, qui nous met, qui met de plein pied dans le débat de la réintégration, qui se pose aussi au niveau du bassin de la Tchad, au niveau du Sahel, mais aussi au niveau des conflits, des typologies de conflits qu'on a connus, génocidaires pour le cas du Rwanda, la question des affrontements intercommunautaires qui risquent de se multiplier sur le continent avec le cas de la Centrafrique, mais aussi quelle sera la possibilité de création d'un contexte sain de cohabitation entre les victimes et les anciens engagés. Et donc le débat est bien lancé. Je pense qu'on va peut-être donner la parole à la salle pour des questions, des remarques, des compléments d'informations, etc.
Merci beaucoup pour ces trois éclairages très intéressants, vraiment très riches, parce que là on est vraiment au cœur de processus en cours, et donc vraiment on est au cœur de la matière. Moi, sur la question de la justice, je voulais poser la question à vous trois de manière générale, entre la question du travail sur la mémoire et sur le pardon et les formes de justice qui sont mises en place un petit peu spécialisée sur le continent africain, cette justice transitionnelle, est-ce que ce n'est pas une justice, vous parliez de half knowledge, est-ce que ce n'est pas une demi-justice, est-ce que ce n'est pas la justice du pauvre? Le TPI international s'est fait une spécialité pour condamner les Africains, les chefs d'État qui commettent des crimes. Mais voilà, est-ce que vraiment ces nouvelles modalités de la justice sont vraiment opérelles, administrent la justice? Parce que chaque fois, je vois que vraiment cette notion de justice est ce qui peut nous réunir au niveau local, national et international, et y compris sortir le mouvement djihadiste de sa expression violente. Je pense que vraiment il faut remettre là aussi un regard critique sur cette notion de justice. Sur la question de la déradicalisation ou des programmes très intéressants que vous avez exposés, là aussi je trouve que c'est des pistes extrêmement fécondes sur le plan heuristique. C'est-à-dire, il n'y a pas de traitement industriel à la déradicalisation. La radicalisation, l'extrémisme violent opère au niveau individuel, au niveau du quartier, au niveau le plus local, de proche en proche. Tous les témoignages de nos enquêtés témoignent que c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'échelon individuel. Et la seule manière d'opérer pour lutter, c'est aussi d'emprunter les mêmes modalités extrêmement contemporaines de radicalisation, utiliser le même procédé rhizomatique. Et donc, je m'excuse de le dire en toute sincérité, à travers ces images, j'ai l'impression que ceux qui parlaient le plus dans ces scènes, c'était, disons, on aurait voulu entendre le savoir ou bien comment ça se passe, ces djihadistes, parce que je crois que c'est ceux qui sont d'anciens radicaux qui sont les plus à même de critiquer et de proposer une sortie de la violence. Que ce soit pour le communisme, on a vu que les plus grands critiques, ce sont d'anciens révolutionnaires communistes. Et vis-à-vis de la scène islamiste ou de la scène, disons, de l'islam sectaire, c'est ceux qui sont passés par ces idéologies et qui en sont revenus et qui en font une critique de l'intérieur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ces djihadistes qui sont emprisonnés ou certains qui sont emprisonnés dans d'autres régions, qu'est-ce qu'on peut savoir de leur vécu et comment eux peuvent être des acteurs pour jouer le rôle de grands frères, pour eux aussi devenir des leaders dans leur quartier pour proposer une alternative à la violence. Merci.
Merci beaucoup. Et merci également aux panélistes. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce panel. Et je voudrais juste poser trois questions. La première, c'est à partir de l'expérience que je vis comme femme actrice de paix en Casamance. Et je me suis demandé si la justice transitionnelle, le rétablissement de la vérité ne sont pas des préalables au pardon et à la réconciliation. Je sais également qu'en République centrafricaine, les femmes et les enfants ont subi des violences insoutenables. On ne peut pas parler des scènes de violence que ces femmes ont vécues. Alors ma question est de savoir si dans les politiques de DDR, les femmes et les enfants sont prises en compte. Et ma troisième et dernière question rejoint celle du docteur tout de suite là. Je me disais, c'est dommage qu'on n'entende pas les leçons, mais j'aurais bien aimé entendre les propositions de sortie de crise des djihadistes, si vraiment ils en ont fait. Merci.
Merci, je vous remercie. C'est donc relatif à l'intervention de Madame Boyoko et celui également de l'intervention de Monsieur Mustapha. Donc pour ce qui est de la RCA, la République centrafricaine, vous savez, toujours quand on écoute, quand on lit la presse internationale, on nous dit, peut-être que c'est un peu dur, que c'est un État failli. Et qu'ils disent même que l'autorité ne dépasse pas les kilomètres 8. Et dans des discussions assez pointues, ils disent que le partage, c'est-à-dire que le fait, entre autres, que durant la colonisation, le fait qu'il soit bloqué, qu'il n'y ait pas une sortie vers la mer par l'intermédiaire de l'État limitrophe Cameroun fait qu'ils ont été asphyxiés en termes de d'existence, entre autres. Mais certes, ils ont créé un tribunal qui est un tribunal pénal spécial avec possibilité de subsidiarité avec la Cour pénale internationale. Les juges ont été recrutés, mixtes, nationales et locales. Mais si on prend par exemple le cas, alors là, on va de l'autre côté de la planète, si on prend le cas cambodgien, quand on sait qu'il y a énormément d'argent qui a été mobilisé pour deux ou trois jugements, deux ou trois personnes, donc quel est en fin de compte le côté positif de ces montages? Le Cambodge, on m'aurait dit que c'est presque 1 milliard pour 2 ou 3 personnes condamnées. Donc, c'est donc cette première question. La deuxième question, c'est relative à El Mustapha. Effectivement, chez nous, en Mauritanie, nous avons eu le même cas. Il y a eu un dialogue dans les prisons. On a amené les Allama, très classique, donc nos érudits. Ils ont eu à discuter avec à bâton rompu, de manière tout à fait, excusez-moi de l'expression, cool, à l'intérieur de la prison. Et il semblerait qu'il y ait eu des désistements ou bien des gens qui se sont repentis. Et ça a l'air d'avoir un effet positif. Donc c'est l'expérience de mon pays. Merci.
Donc bonjour, je m'appelle Samira Beloussine, je suis étudiante ici à Sciences Po Rabat. J'ai une question assez rapide. Je voudrais savoir si, paradoxalement, le pardon n'est pas une forme de consentement meurtrier. Voilà. Merci.
Très bien. Donc, nous avons des questions assez intéressantes qui vous sont adressées. Je commencerai par Rachid sur la question du pardon pour rebondir à chaud. Et après, on passera...
Merci. Effectivement, cette question du pardon, pourquoi j'ai voulu l'introduire ? En fait, je parle en particulier de l'impardonnable. Qu'est-ce qu'on fait de l'impardonnable ? Qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on ne pardonne pas ? Et en l'occurrence, précisément, ce sont ces choses-là qui participent de la légitimation de la violence, mais de toutes les violences. Parce que les violences des djihadistes ou les violences de... Je prends ce cas-là par exemple, elles se justifient par des violences, par d'autres violences qu'ils subissent. Donc le sentiment et le besoin de justice, il est au cœur en fait des modalités de légitimation de la violence. Et effectivement, j'ai bien conscience, pour ma part, et c'est là où je rejoins un petit peu l'intervention de Reda, et je vais réagir à cela, que la culture du pardon, dans le cas du RDSA, peut être un obstacle à la justice. Et mais le problème, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la culture et dans l'imaginaire en fait, des populations, et en particulier de ceux qui recourent à la violence comme mode d'expression de légitimation, de... Bon, il y a tout un tas de choses là-dessus, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que précisément, c'est en général la justice des vainqueurs que l'on applique. Et c'est cela qui pose un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des urgences. Il y a des urgences par rapport à des violences. Et pour sortir de la violence à un moment donné, des expériences ont été conduites. Je prends le cas du Rwanda, les gachacha, les fameux tribunaux populaires, etc., qui ont été mis en œuvre, etc., à la sortie du conflit génocidaire. Donc là, c'était intéressant de voir effectivement comment est-ce que les acteurs religieux, mais aussi l'État, ont investi en fait à l'échelle très locale, donc ça c'est extrêmement important, des tribunaux dans lesquels effectivement on a pu tenter de prendre en charge, en tout cas, ce besoin de justice pour pouvoir... Et le pardon était... une ressource possible pour sortir en fait de la logique de la vengeance et de la reddition des comptes. Mais ça doit être applicable un petit peu à toutes les échelles et partout, et sur le continent africain en général, c'est cela le problème. Parce qu'on est sorti de la violence nazie, pas par le pardon, jusqu'à présent. On tente de sortir de la violence djihadiste, pas par le pardon. Donc à un moment donné aussi, la violence légitime, qui en a le monopole, qui peut l'exercer, etc. Et c'est tout le problème aussi en Afrique, où les milices, etc. Tu veux m'interrompre ? Ok, voilà. Sur ces questions-là. Donc effectivement, je pense que le rapport entre justice et pardon n'est pas un rapport de dépendance. Je les ai vraiment distingués. C'est important de les situer sur des registres différents, parce que je ne pense pas... Comme Marie le disait ici tout à l'heure, effectivement, la justice et la réconciliation sont-ils des préalables au pardon ? Et là aussi, le pardon ne doit pas être un but que l'on recherche, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Véritablement, ce qu'on doit rechercher dans la rupture de la violence et du cycle de la violence, c'est la justice. Parce que pour ma part, ça c'est moi qui en parle, pour ma part, de mon point de vue, il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des choses qui sont impardonnables fondamentalement. Il ne s'agit pas de tenir un discours un petit peu bénifiant, angélique, etc., machin, sur ces questions-là. Et donc, du coup, effectivement, il y a, et en l'occurrence, jusqu'à présent, en particulier pour le continent africain, on ne fabrique pas d'armes en Afrique, par exemple, c'est un problème. Donc, à un moment donné aussi, les violences armées, etc., qui est responsable ? Mais c'est tous les responsables. Ce n'est pas uniquement ceux qui exercent la violence, mais c'est aussi ceux qui la permettent. Voilà.
Niagale, et peut-être j'aimerais que tu puisses revenir sur... Parce que tu as beaucoup parlé de la CPI, etc. Vous savez ce qu'en pensent beaucoup d'Africains aujourd'hui, qui considèrent ça comme un tribunal réservé seulement aux seuls dictateurs africains et que, bon, les autres peuvent y échapper. Et la crédibilité de cette instance internationale de justice, dont l'action, quand même, est déterminante sur la vision qu'on a, soit du pardon ou de l'amnistie. Merci.
Alors moi je précise que je ne suis pas du tout une spécialiste de la justice pénale internationale. Tout ce que je dirais, c'est qu'il faut connaître déjà objectivement le mandat de la CPI. La CPI, elle intervient pour traiter des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de génocide. Hein. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important. Je pense que l'affaire Bemba, la relaxe quand même de Bemba, a prouvé que la CPI avait quand même l'obligation d'appliquer un certain nombre de procédures. Donc je pense que paradoxalement, le fait que Bemba ait été libéré au terme de ce processus, ça a contribué à la relégitimer d'une certaine façon. Maintenant, évidemment, se pose le problème de savoir qui a signé la convention d'adhésion à la CPI. Vous savez très bien que notamment les États-Unis ne l'ont pas signée. Et ce n'est pas un hasard. Je veux dire, le problème aussi est sans doute que la plupart des... Enfin, pour moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je pense qu'ils ont bien fait de le faire. Mais la plupart des États africains ont adhéré à la convention de la CPI. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a autant d'Africains qui sont devant cette instance. Et puis aussi, il faut quand même reconnaître qu'il y a plus de conflits et qu'il y a eu plus d'actes d'atrocités de type génocidaire ou de crimes contre l'humanité sur le continent africain aussi. C'est quand même un fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, la CPI fait peur à beaucoup de monde, puisque vous avez vu ce qui est arrivé à Fatou Bensouda récemment, à laquelle Donald Trump n'a pas voulu accorder prolongation de visa. Donc voilà, je pense que la CPI est quand même un instrument qui fait peur au-delà du continent africain. Par rapport... aux questions, je voudrais juste intervenir sur cette question du pardon. Moi, j'ai trouvé ton exposé mais vraiment fondamental, parce que c'est effectivement une vraie question. Moi, je m'étais jamais posé cette question du pardon, et qui est particulièrement importante dans les contextes très religieux. Et pour moi, la RCA est très intéressante parce qu'on n'est pas uniquement dans le contexte musulman, du problème de l'islamisme, etc. Et c'est justement la responsable d'une ONG évangéliste, Sandra Africaine, qui m'a dit « Notre problème, c'est qu'effectivement, on a toujours fonctionné par rapport à une logique de pardon. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des forums que j'ai mentionnés, parce que la RCA, c'est le pays champion pour l'organisation des forums de réconciliation, il y a eu le dialogue national en 2003, le dialogue politique inclusif en 2008 et le forum de Bangui en 2015, les chefs d'État ou les responsables vont demander pardon. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas simplement une culture de pardon diffuse au sein de la population. C'est que les responsables politiques demandent une certaine absolution. Et puis, parce qu'on est face à des populations qui sont en effet, qui ont une foi chevillée au corps, on dit, il a demandé pardon. Voilà. Donc j'avais trouvé ça intéressant, mais je pense que ça peut nourrir ta réflexion, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut mener, et c'est une réflexion qu'on n'a absolument pas dans les contextes laïques dont je proviens notamment. Hein, et donc ça me paraît très très important. Et je suis d'accord avec vous, madame, je crois que c'est vous qui avez dit qu'en effet, c'est sans doute le rétablissement de la vérité qui est indispensable au pardon. Parce que quand tu parles des gachachas ou quand on prend le cas de l'Afrique du Sud, justement, pourquoi est-ce que tout ça a été possible ? Parce que c'est vrai qu'il y a une reconnaissance des fautes, mais pas simplement en disant « je demande pardon », mais en disant « voici les actes impardonnables que j'ai commis et je reconnais que je les ai commis ». La reconnaissance de la faute, moi, me paraît consubstantielle de cette notion de pardon. Alors, la question de la prise en compte des exactions dont ont été victimes les femmes et les enfants, mais pas que les femmes et les enfants. Moi, si on prend par exemple le cas du viol, on parle tout le temps des viols de femmes. Dans les contextes conflictuels, les viols d'hommes sont tout aussi terribles et très souvent non reconnus et amènent à une exclusion sociale qui est absolument terrible. D'une manière générale, le problème est que les victimes n'ont absolument pas été mises au centre des différents processus de justice transitionnelle. Faire une loi d'amnistie, c'est un processus de justice transitionnelle. Ce n'est pas la justice transitionnelle dont on rêve, mais ils ont considéré que justice avait été faite. On a décidé, on absout absolument tout le monde. Alors, est-ce que la RCA est un État failli ? C'est pour ça que j'ai essayé d'adopter une approche historique. C'est un État, alors vous parlez du PK8, effectivement, hein, ça on peut même dire stop au PK5. Non, c'est un État qui... est-ce un État, est-ce une politique, justement, où le contrôle du centre sur la périphérie a toujours été extrêmement lâche, voire inexistant, y compris sous la colonisation. Vraiment, c'était une exception dans l'Afrique occidentale française, équatoriale française. C'est un cas très, très particulier en termes de contrôle territorial de la RCA. Et comme tu l'as dit très justement, tout ça renvoie à la question de qui a le monopole de la violence légitime. Et c'est pour ça que je parlais de... on peut pas... En RCA, c'est très difficile de dire d'un côté, il y a l'État et de l'autre, il y a les groupes armés, puisque un grand nombre de membres ou de leaders des groupes armés ont été au sommet de l'État à un moment donné. Quand on regarde l'histoire, j'ai un tableau que j'adore, quand on voit la fonction occupée par le nouveau chef d'État avant d'accéder à cette fonction... Il était soit Premier ministre, soit ministre de la Défense, soit chef d'état-major. Donc on a une espèce de bon, je vais parler de manière un peu familière, mais une espèce de bande, franchement, hein, d'une espèce d'élite politico-militaire qui transcende complètement l'État et qui se partage l'exercice de la violence, mais sans monopole réel.
Il y a des questions qui ont été adressées à Mustapha, notamment la dernière qu'on a eue, et puis celle de la...
Oui, pardon, pardonnez-moi. Alors ça, je ne connais pas du tout, mais effectivement, la question que vous posez, elle renvoie plus largement, à mon avis, à celle des dispositifs multilatéraux internationaux qui coûtent extrêmement cher à la communauté internationale et dont on doute de l'impact et des résultats. Alors c'est totalement vrai pour ce que vous évoquez à propos du tribunal pour juger les Khmers rouges, mais c'est aussi quelque part ce qu'on reproche à la MINUSMA, à la MINUSCA, ou plus largement à tous ces processus électoraux. Est-ce que le résultat justifie le coût ? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que oui, parce que symboliquement, je pense que c'est extrêmement important. Mais j'entends tout à fait les arguments inverses aussi.
Merci. Sur la question qui a été posée à Al-Mustapha et par rapport à l'expérience mauritanienne, la Mauritanie qui a été très tôt affectée par ce phénomène dès 2003 avec la fameuse... eux, ils ont eu une triptyque, la Mouhawara, le dialogue inclusif, y compris avec des chefs salafistes ou d'autres qui ont été impliqués dans ces attentats-là. La Mounasaha, en utilisant le rôle des ulama, etc. Et puis, ce qu'on appelle la Mouraja'a, qui était assez importante. Maintenant, ce qui me ramène un peu au cas marocain sur lequel je vais ajouter une autre question. Je vois une approche parfois, c'est très intéressant le cas marocain, très religieux-centré. Est-ce que c'est ce que je vois dans l'approche que j'ai vue tout à l'heure, quelle est la part des autres aspects psychologiques, sociaux, économiques, etc., d'intégration, en plus de l'approche qui se base sur la religion, sur le contre-discours, etc. J'aimerais bien que si tu pouvais revenir là-dessus. Merci.
Bon, je vais revenir à la première question pertinente et remarque de Reda. Parce que justement, alors dans cette approche, désolé, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le son, les deux. Alors... Tout d'abord, l'approche marocaine, il se distingue, même théoriquement dans la construction doctrinale, de l'Omourajahat et de Mounasaha. Tout simplement parce que, d'après moi, ça c'est très personnel, ce que je crois, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Jordanie, ce qui s'est passé en Libye, avec le Jama'a islamique, le Libye al-Musallaha, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Maroc, parce qu'on n'a jamais eu ce type de Mourajahat. Et même ce type de Mourajahat, aujourd'hui, il est mis en question. Ça ne veut rien dire que les gens ont été engagés pendant des années. Ils viennent me donner un bout de papier pour me dire « Vive le régime !» Je ne suis plus dans la violence. Je vais dire « Ah, elle a réussi, elle n'est plus terroriste. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un programme inclusif, holistique. Et c'est dans ce sens, c'est vrai, tu as vu beaucoup de photos où il y a vu l'âge là-bas, mais la partie de la religion ne représente, n'a représenté que 20%, tout d'abord. Deux, les programmes, au début, c'était basé sur une approche participative. C'est les détenus qui ont choisi les thèmes. Ça, c'est aussi important. Bien sûr, il y a d'autres thèmes que nous, on a jugé que c'est important de les impliquer, mais ils avaient toute la liberté de choisir les thèmes, de participer dans ce groupe et non pas dans l'autre, de travailler avec ce détenu et non pas l'autre. Alors, il n'y avait aucune obligation, tout simplement parce qu'il y avait un cadre légal. Ces gens, ils sont dans la prison, ils passent leur pénalité. Personne n'a le droit de leur imposer autre chose. Alors, c'est volontaire, c'est eux qui demandent de participer ou non dans le programme. On n'impose pas sur les détenus de participer. Alors, c'est un peu différent de l'expérience de l'école de Singapour, de Rohan. Alors, en Singapour, ils obligent les détenus djihadistes de participer dans les programmes et s'ils ne réussissent pas, ils font le transfert dans de beaucoup des prisons plus dégradées. Alors, je crois que c'est injuste, tout en parlant de la justice. Nous, on n'est pas des juges. Ça, c'est un. Deux. Alors, cette question de Mourajahat ne relève pas de la logique. On croit que les détenus ne sont pas tous radicalisés par des raisons ou des raisonnements cognitifs. Il y a l'affectif, il y a le social, il y a des gens qui sont très vulnérables dans le groupe, justement, et qui développent tout de suite un narcissisme collectif. Et quand elle est tout seule, elle est normale. Alors déjà, il y avait différents types avec lesquels on travaille. Troisième remarque que je défends personnellement au Maroc, c'est que les anciens djihadistes ne peuvent pas faire partie du processus de déradicalisation. Ils peuvent contribuer à la prévention, mais on ne doit pas reproduire un djihadiste puis un ancien djihadiste qui capitalise l'ancien capital symbolique et il revient dans la société pour occuper un espace social, un espace culturel. Il devient parfois même un compétiteur des agents de l'État dans le champ religieux. Cette expérience a été reproduite dans plusieurs pays et elle a montré un déficit incroyable. Et je crois que le processus actuel, c'est que ces gens-là, on doit voir leurs skills en dehors du volet religieux, sauf ceux qui ont des diplômes et sont vraiment des autorités intellectuelles dans la jurisprudence islamique. Alors là, il est diplômé et il peut exercer, par exemple, des fonctions proches du champ religieux. Mais reproduire ce phénomène, quelqu'un qui se vend après pour les bailleurs de fonds en tant qu'ex-jihadiste, elle a la connaissance, elle a les clés, ça, on souffre maintenant de ces expériences-là. Et malheureusement, c'est partagé. Ce n'est pas seulement nos sociétés qui sont responsables, mais aussi les bailleurs de fonds étrangers. Il faut dire la vérité. Ils sollicitent beaucoup ces gens-là, juste parce que ce fiasco de narratif qui est devenu à la mode, tout le monde il parle narratif. Il nous a détruits dans les bons chemins de lutter contre l'extrémisme violent. Dernière remarque, si vous permettez, c'est le processus de déradicalisation dans les prisons devrait être aussi dissocié de la logique sécuritaire. Alors, on ne travaille pas avec les gens pour découvrir de l'information. Ça. Alors, malheureusement, dans plusieurs pays, c'est l'objectif principal, c'était ça. Faire parler chez ces gens assister les agences de renseignement et monter des fiascos programmes, mais l'objectif principal, ce n'est pas thérapeutique, ce n'est pas réhabilitation, c'est un travail qui rejoint le travail des sécuritaires. Je crois que le Maroc n'a pas fait ce choix et je crois qu'il y a beaucoup de réformes aujourd'hui. À la fin de l'année, on prévoit même aussi une nouvelle loi des pénalités alternatives. Alors ce n'est pas seulement la prison qui est la seule option pour juger les gens selon la gravité de l'acte. Alors les juges, ils vont... Tout simplement parce qu'on a un problème de surpopulation aussi dans les prisons. Alors on a, je crois, on est à 80 000 prisonniers. Tout confondu, hein. 1000 prisonniers associés au crime de l'acte criminel, mais les autres, c'est le droit pénal, le droit commun. Mais ça n'empêche pas que dans la gestion, je crois que dans les politiques publiques, c'est un set inclusif. On ne peut pas privilégier les prisonniers de djihadisme et oublier les autres. Pour le ministère en charge, titulaire de ce sujet, il règle beaucoup de questions, et dont cette question, il les appelle les détenus d'affaires spéciales. Alors c'est dans cette logique que voilà, l'approche marocaine est installée. Merci.
Ah, vraiment une ou deux questions, parce qu'on doit pas, normalement on devait partir à la pause à 1h30. Il y a une question, d'accord, et après.
Pardon. Ma question, c'est au sujet de comment est rendue la justice et cette notion, ce concept que vous avez développé du pardon. Ce matin, j'ai entendu, comme tout le monde, à la radio, que le frère de Abdelkader Merah a été condamné à 30 ans de prison en appel. La cour de justice en première instance l'avait condamné à 20 ans. L'avocat s'est insurgé contre ce verdict. Et j'ai l'impression que vous avez développé ce concept du pardon au nom de... avec cette vision de la cohésion sociale, du lien social, alors que, avec les yeux de Chimène, un petit peu, si l'on veut. Mais je pense que, qu'en est-il des crimes qu'on a, comme celui de Imlil, les atrocités commises, et si on peut plaider que, au nom de la réconciliation et du pardon, le pardon doit s'installer au nom de la cohésion sociale dans une société qui veut instaurer un ordre et un État, je pense que pour ce qui est des crimes comme ceux d'Imlil, je voudrais peut-être qu'il y ait plus tard un débat sur la peine de mort, aujourd'hui qui n'est pas appliquée au Maroc, et que tout le monde veut voir... même ailleurs, s'instaurer de nouveau. Voilà un petit peu mes interrogations. Merci.
Je me suis souvent posé la question de la compatibilité entre la justice et la réconciliation. Moi, c'est un problème pour moi, en cas, notamment dans certaines sociétés. Est-ce qu'on ne doit pas privilégier plutôt la réconciliation que la justice. Et dans un deuxième temps, la question qui se pose, c'est le hiatus qu'on peut observer entre la justice internationale telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle se positionne au niveau des conflits, en lien avec le rôle des grandes puissances dans ces conflits-là, et donc ce hiatus entre cette superstructure internationale et les ressources et les mécanismes endogènes de réconciliation et de gestion des conflits. Pour moi, tant qu'on n'arrive pas à, disons, briser ce mur entre ces deux mécanismes, on arrivera difficilement à trouver des solutions dans les différents conflits dont on a parlé ce matin.
Donc on va s'arrêter à ces deux questions-là, je pense que, parce qu'il est l'heure de la pause. Oui, c'est vrai, mais voilà, on va donner rapidement aux panélistes le temps de répondre assez succinctement. Et puis après, les questions sont tellement importantes aujourd'hui, la question de la réconciliation, de la justice, qu'on est déjà en train d'empiéter sur le débat général qui aura lieu cet après-midi. Je pense qu'on aura d'autres questions à débattre ensemble. Il y aura le temps de revenir sur toutes ces problématiques-là. Rachid, rapidement, sur justice et réconciliation, et voilà, ou un autre aspect sur le Rwandais, par exemple, ou par exemple, la question sur le Rwanda, le choix qui a été fait de dire que si on devait juger tous les gens qui étaient impliqués dans le génocide, ça allait prendre 200 ans. Est-ce que le Rwanda va passer son temps à 200 ans à faire des procès ou bien on a pensé à d'autres solutions, voilà.
Oui, non, merci. Ouais. Effectivement, ça pose en fait la question des limites de la justice et des limites du pardon aussi. Et j'ai insisté sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. C'est-à-dire que les sociétés fortes, les grandes puissances, ne pardonnent pas le nazisme jusqu'à aujourd'hui. On ne pardonne pas les djihadistes, etc. On les condamne et surcondamne, etc. etc. On est dans des rapports de force et de domination et on demande effectivement à des sociétés qui, pour des raisons X ou Y, ou parce qu'elles seraient plus religieuses, plus traditionnelles, etc., de recourir à la commodité du pardon pour esquiver les questions de justice et de reddition des comptes à un moment donné. Donc c'est aussi parce que les crimes de guerre des États-Unis en Irak, par exemple, ou de ce qui s'est passé en Libye, etc., on leur demande pardon. Enfin, je veux dire, la question ne se pose même pas. Donc, c'est les questions des rapports de force qui se posent. Et effectivement, et moi, je suis en tant que sociologue. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce que les populations, les citoyens, etc., et la société de manière générale, recourent à des modalités de résilience et comment est-ce que le religieux, en l'occurrence, via cette notion du pardon, peut être aussi un instrument qu'on peut investir pour sortir des violences immédiates et des conflits immédiats. Mais ce n'est absolument pas suffisant pour permettre précisément à des sorties définitives, etc., de certaines violences, parce que auquel cas, ça entretient, enfin, cette mémoire de la violence, ce qui, par exemple, la mémoire coloniale des crimes de guerre coloniaux, etc., en Afrique, elle est encore vivace, elle est présente. Vous l'entendez résonner dans les discours des djihadistes ou dans les discours de légitimation de mouvements anti-occidentaux, etc., etc. Voilà. Donc c'est bien ces questions de rapport de force, etc., que j'ai voulu interroger en investissant cette notion du pardon, parce que je crois savoir que l'une des préoccupations de ce programme ici, des réflexions qui nous réunissent, c'est précisément de nous interroger aussi dans les sociétés africaine, de Méditerranée et du Sahel, sur le rôle des religieux et des acteurs religieux. Et on le voit à travers cette expérience, effectivement, on peut avoir ce sentiment qu'on focalise beaucoup trop sur le facteur religieux dans les violences et les sorties de violences, mais il y a aussi d'autres types de facteurs qui sont beaucoup plus... voilà, bon, j'espère avoir...
Alors, donc, pour répondre à différents éléments... La question de la compatibilité entre la justice et la réconciliation. Moi, je pense que c'est la vérité, en réalité. Et c'est pas un hasard si le modèle sud-africain est souvent cité. Je sais pas, moi, j'ai eu la chance de visiter le musée de l'apartheid. Il y a énormément de vidéos qui sont très intéressantes sur, justement, les témoignages et les échanges directs entre les victimes et leurs bourreaux. Et le bourreau reconnaît, bah oui, c'est moi qui l'ai torturé de telle façon, ou c'est moi qui ai ordonné ci, c'est moi qui ai ordonné ça. Certains disent, oui, bah voilà, je vous pardonne ou je ne vous pardonne pas. Et ça n'a pas empêché certains processus judiciaires. Hein. Par ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en prison. Mais la question est celle de la réconciliation de la société dans son ensemble, en fait, hein, finalement. Parce qu'effectivement, quand on a affaire à des crimes de masse ou à des systèmes institutionnalisés de persécution ou d'exclusion, effectivement, c'est très compliqué de condamner la totalité des personnes qui ont été associées à ce système. En général, ce sont les leaders qui le sont ou les exécutants les plus sanguinaires. Mais une fois de plus, je pense que cette question de la reconnaissance de la faute et de la vérité me paraît absolument centrale. Et j'étendrai cette remarque à une question que tu as évoquée, à laquelle je n'ai pas totalement répondu. C'est celle des processus de DDR. Alors déjà, je préviens tout de suite, le DDR, contrairement à quelque chose que j'ai entendu hier, c'est pas qu'un concept importé par des puissances occidentales. Non, des processus de démobilisation et de réconciliation, on en a eu notamment au Mali, hein, à la faveur des différentes rébellions Touareg, et la communauté internationale, ça ne l'intéressait absolument pas de savoir ce qui allait advenir ou pas des rebelles Touareg. Le problème qui se pose en termes de réconciliation est aussi celui de la répétition ou pas. C'est-à-dire, quelqu'un auquel on a déjà pardonné, est-ce que la société peut tolérer qui reproduisent ce pour quoi on l'a déjà absous. Ça, c'est une question absolument majeure. Et enfin, pour terminer sur le rôle des puissances, leur rôle dans la superstructure de la gestion des conflits. Oui, bien sûr, il y a le rôle des puissances internationales. Bon, RCA, on ne va pas nier, évidemment, le rôle de la France. Mais il faut savoir quand même que la première mission qui a été mise sur pied, alors c'est vrai avec l'aide de la France, mais ça a été la première mission interafricaine, c'était la MISAB, hein, à la fin des années 90, qui était d'ailleurs dirigée par l'ancien président du Mali, ATT. Donc, voilà, tout ça est quand même intéressant à observer. Mais si on pose la question des ressources endogènes, et monsieur m'a fait plaisir en me disant qu'il lisait un article que j'ai écrit sur les mécanismes traditionnels de gestion des conflits, si on prend la RCA, les chefs traditionnels sont complètement décrédibilisés, au même titre que les autres élites. Vraiment, on dirait pas qu'il y ait une appétence particulière des populations pour se tourner vers ces acteurs. Je parle du cadre de la RCA, hein. Voilà. Ben bien sûr, mais dans beaucoup d'autres pays. Mais je parle vraiment de la RCA.
Bon, moi, je reste dans le dossier que je maîtrise mieux, c'est l'extrémisme violent. Je crois que cette question de justice-réconciliation, elle est très importante, non seulement dans nos débats, mais même au sein des Nations Unies. Je me souviens, en novembre 2017, j'étais invité par le Conseil de sécurité pour débattre justement les processus possibles pour gérer les femmes revenantes des zones de conflit. Et il y avait deux écoles. Une école qui tolère parce qu'elle est femme, avec beaucoup de prétextes que la pauvre, elle a accompagné son mari, etc. Vous connaissez mieux que moi cette histoire. Et une autre logique qui ne considère pas ces conditions culturelles, et il veut justement traiter la question du genre extrémiste violent similaire que ce qui se passe par les hommes. Et dans le débat, il y avait des Tunisiens qui ont relevé la question de la nationalité. Est-ce qu'on doit retirer la nationalité pour ceux qui ont quitté la Tunisie vers la Syrie et l'Irak ou non? Et entre-temps, justement, tout en parlant de la justice et réconciliation, les gens, parfois, ils oublient. Ils oublient deux choses. Un, le cadre légal, parce qu'on ne peut pas réfléchir en dehors du cadre légal. Je ne vais pas parler sur les lois nationales, mais même sur les mémorandums qui existent. Tout en parlant sur les victimes, il y a le mémorandum de Madrid qui prime. En parlant sur le processus de déradicalisation, il y a le mémorandum de Rome. En parlant sur l'élargissement de l'acte criminel, il y a le mémorandum de Hague et de Rabat et de Marrakech. Et alors, il faut quand même, peut-être pour être un peu pragmatique dans nos approches, il faut considérer aussi le cadre légal. Deux, il y a ce problème de, si vous voulez, vous avez bien dit ça, c'est le problème de récidive. Voilà. Alors, le problème qui se pose, par exemple, si on prend le cas marocain, on est à 1674, je crois, marocains qui sont allés en Syrie, en Irak. Il y a ceux qui ont été tués, ceux qui ont fait le retour. Mais il y a un chiffre qui dérange, 227. Qui ont été avant des anciens détenus pour des dossiers relatifs à l'extrémisme violent et le terrorisme. Alors, cette catégorie de récidivistes pose problème. Alors, l'approche devrait être complètement différente, et on ne peut pas monter des projets de déradicalisation. Parce qu'à la fin de compte, si tu ne fais rien, tu vas le garder dans la prison, il va terminer sa pénalité, il va sortir. Alors tu ne peux pas l'arrêter pour rien. Alors c'est mieux de monter des programmes espérant que ça va réduire justement le risque, ce qu'on appelle Procedure for Risk Assessment. Alors je crois que ce genre de programmes, ils sont importants, même indispensables. Malheureusement, les pays qui sont sérieusement engagés dans ces approches sont très peu. Et aussi, tout en parlant avec des collègues qui viennent ou qui travaillent en France, il faut quand même, au Maroc, on a pu un peu régler le problème de ce rapport entre le professionnel et la société civile. En France, pas tellement. Tout ça. Alors, je connais des associations qui ont été impliquées dans des processus de déradicalisation et ils ont ramené des sociologues, des anthropologues, des historiens pour faire le travail de psychologue. Et je connais des incidents de suicide dans ces groupes d'encadrement. Alors, on doit être aussi responsable. Alors, c'est vrai, la société civile, c'est un axe important, mais à mon sens, la société civile ne peut être utile que dans le processus de prévention. De prévention. Prévention, réinsertion, bien sûr. En parlant de prévention, c'est... Mais il ne peut pas être engagé dans des processus qui exigent de l'expertise, de la discrétion, de la déontologie et autres engagements que parfois on ne peut pas contrôler. Merci.
Sur ces derniers mots, merci de vos interventions et merci aussi au public pour les questions très intéressantes qui vont se poursuivre dans l'après-midi. Est arrivée l'heure de la pause et à tout à l'heure. Merci.